Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Comme tous les lundis soirs, c'est Sporama en direct de Washington pour parler de sport, refaire l'actualité sportive du week-end. Et comme à chaque fois, vous pouvez nous appeler en direct, le numéro de téléphone 001 202 205 26 33, 001 202 205 26 33 pour nous appeler en direct. C'est Georges Léonard Sagnot qui prend vos appels derrière la vitre. On va saluer nos intervenants. Tout d'abord, depuis Boïkonseto Bénin, on va saluer Élisée Oumpatine. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les amis auditeurs de la VOA Afrique.
Saluons également Amine Birouk qui se trouve à Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Jules Valentin-Goué qui est à Libreville, c'est au Gabon. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Amédine est avec nous depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pino et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et enfin depuis Kinmalebo, Kinshasa, notre station partenaire Top Congo FM et son rédacteur en chef Thierry Kambundi. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous et bienvenue à Kinshasa.
Allez, on va tout de suite prendre la direction du Maroc avec Amine Birouk, puisque l'actualité, c'est bien évidemment cette visite d'inspection de la FIFA. Ça y est, la Task Force est sur le terrain pendant quelques jours et va visiter plusieurs sites, notamment le grand stade de Marrakech ce mardi, mais aussi à Agadir, à Tanger ou encore à Casablanca. On se souvient qu'il y avait de la friture sur la ligne entre la candidature marocaine et la FIFA, compte tenu notamment de toutes ces exigences de dernière minute qui avaient été demandées à la FIFA aux différents pays organisateurs. On rappelle qu'à ma droite, on a le Maroc, à ma gauche, la triple candidature États-Unis, Mexique et Canada. La FIFA a visité ces trois pays la semaine dernière et on attend bien évidemment ce vote. Ce vote, ce sera le 13 juin à Moscou pour savoir si enfin le Maroc sera récompensé pour sa cinquième tentative, si je ne m'abuse, pour décrocher la Coupe du Monde. Quelle est l'ambiance au Maroc, Amine, après évidemment que cette task force ait posé les pieds sur votre territoire pour entamer cette visite?
Disons que ça se fait de manière discrète. Les seules informations dont on dispose, c'est bien évidemment l'itinéraire de cette task force et également le fait qu'on nous a rappelé qu'aucune interview ne serait accordée, que d'une façon ou d'une autre, nous n'avions pas à suivre ces experts de la FIFA dans leur pérégrination au Maroc. On connaît un peu la feuille de route puisqu'ils visiteront quelques hôpitaux, ils verront une gare de chemin de fer, ils iront voir des aéroports, des stades, des fan zone. Il y a évidemment des angles qui ont été quelque peu arrondis puisque c'est un itinéraire qui a été concerté avec le comité de candidature marocain. Bien évidemment, ce que l'on souhaite au Maroc, c'est que ces remarques d'experts ou de ces personnalités qui sont venues, notamment Zvonimir Boban, ne soient pas éliminatoires. C'est-à-dire qu'il y ait des recommandations qui soient soumises et que ce soit le congrès de la FIFA qui puisse trancher, non pas le conseil de la FIFA sur recommandation de ce panel d'experts. On rappelle qu'il y a deux étapes quand même. Il y a les recommandations qui seront soumises au conseil de la FIFA le 6 juin, et c'est le conseil qui pourrait évidemment voter et éliminer la candidature. Sinon, si les deux candidatures arrivent à passer cet obstacle, le vote sera soumis le 13 juin par toutes les fédérations. Elles seront au nombre de 207 et il faudra obtenir au minimum 104 voix pour pouvoir aspirer au privilège d'organiser la Coupe du Monde. On rappellera aussi que tout au long de cette semaine, il y a eu un échange aigre-doux entre la Fédération marocaine de football et la FIFA, via le secrétaire général, Mme Fatma Samoura. Évidemment, l'impression, c'est que la candidature marocaine veut mettre un peu plus la pression sur la FIFA, rappeler certaines règles et puis essayer, sur le fond, de discuter du bienfait de la task force, non pas de sa présence ou de l'obligation de visiter les lieux, mais plutôt du système de notation qui a été donné au tout dernier moment de candidature, et puis également le fait que ces candidatures soient soumises à ce diktat du conseil exécutif de la FIFA, où le président Gianni Infantino, qui n'a pas voix au chapitre au moment des votations, peut voter bien évidemment. Bon, la chose est un peu compliquée. On verra ça à partir du moment où il y aura des infos qui viendront à partir de Casablanca, alors, de Marrakech, d'Agadir ou de Tanger.
Oui, justement, merci Amine pour toutes ces précisions. Jules Valentin Ngoué à Libreville au Gabon, ce serait quand même assez incroyable que la candidature marocaine soit en mauvaise posture du fait d'un ratio hôpital-aéroport, cette distance calculée par exemple. Ce serait dommage que les atouts sportifs et notamment le fait que le Maroc soit si bien situé vis-à-vis notamment des pays européens pour suivre ces matchs et des pays africains pour suivre ces matchs à un horaire convenable. Ce serait dommage que tous ces paramètres techniques viennent parasiter la candidature marocaine.
Bien sûr, c'est d'autant plus qu'il faudrait bien qu'on respecte la rotation des continents.
Oui, bien sûr.
Et le Maroc qui est le seul candidat africain et un candidat qui a vraiment des atouts, disons, respectables et devrait pouvoir passer si réellement on s'en tenait au critère principal et qui est celui de la rotation des continents. Mais la Coupe du Monde est devenue une affaire tellement juteuse et tellement importante que finalement, peut-être d'autres paramètres vont jouer.
Merci beaucoup. Élisée Houpatine, est-ce qu'on ne joue pas là aussi peut-être le futur des relations entre la tête du football mondial, Gianni Infantino, et la tête du football africain, le Malgache Armat? On sait qu'il y avait une bonne entente entre les deux qui avait notamment permis l'élection à la tête de la CAF du Malgache Armat. Est-ce que une non-sélection du Maroc, est-ce que ça entacherait pas un petit peu les relations entre les deux blocs du football?
Bien évidemment, Nicolas, puisque déjà lors du congrès qui a eu lieu, on se rappelle du côté de Casablanca où la FIFA a voulu un peu empêcher Hamad à montrer un peu le projet de l'organisation du Maroc à cette Coupe du Monde qui aura lieu très bientôt. Donc, c'est-à-dire qu'on a empêché Hamad de montrer le projet des Marocains. Déjà, à partir de là, les Africains se sont posés, comme on dit, pas poser des questions.
Alors on vous perd un petit peu, Élisée Houpatine, on vous perd un petit peu. On va essayer de rétablir la connexion. On va partir du côté de Kinshasa retrouver Thierry Kambundi. Thierry, évidemment, on l'espère au nom de la rotation. On le disait, it's time for Africa, c'est ce qu'on disait en 2010. 16 ans plus tard, ce serait quand même assez logique d'avoir une Coupe du Monde en Afrique. Comment vous voyez les choses, vous, du côté de Kinshasa? On rappelle que Constant Omari est vice-président de la CAF. Il est aussi au comité exécutif de la FIFA. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Thierry, est-ce que vous nous entendez? Voilà, on me fait signe côté régie que on n'arrive pas à voir Thierry Kambundi. Alors on va continuer avec l'ami Amdinsi. Amdinsi qui est à Dakar, Amdine qui sera en Russie, ça y est, il a eu son ticket. Amédine, vous, comment vous voyez cette visite d'inspection et notamment ces deux candidatures, la candidature marocaine et la candidature américaine, mexicaine et canadienne?
Non, en fait, moi, j'ai quelques puisque après ces quatre tentatives rapides d'abuser le plus grand événement sportif mondial en 94, 98, 2006 et 2010 pour la première Coupe du Monde en terre africaine finalement attribuée à l'Afrique du Sud. Le Maroc semble encore mal parti. Et si ce cinquième pari lui échappait, il pourrait terriblement en vouloir à la FIFA. Oui, à la FIFA, parce qu'il y a une ombre de suspicion puisque les règles sont en train d'être changées. C'est pas normal. On ne peut pas changer les règles en cours de jeu. Ce n'est pas du tout normal. C'est pourquoi je comprends le président Fouzi. Il a raison, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, de tacler rigoureusement ces gens de la FIFA. Parce que ce n'est pas de l'orthodoxie qui est en train d'être faite pour le moment, Nicolas. Sinon, ce n'est pas normal. On ne peut pas changer les règles comme ça, puisque l'Afrique doit organiser, vous l'avez dit. Le Maroc a les infrastructures qu'il faut. Le Maroc se trouve idéalement pour pouvoir accueillir la crème du football mondial, mais on est en train quand même de changer des choses qui peuvent influencer négativement sur l'organisation de la Coupe du Monde au Maroc. C'est pas du tout normal. Je pense qu'on doit du respect, notamment au Maroc, mais à l'Afrique, et faire des choses convenablement, sinon ça ne sert à rien de postuler si on sait qu'il y a des pays plus influents. C'est pas normal, Nicolas Pinot.
Ah, il n'est pas content à Médine, mais on espère, on va croiser les doigts. Allez, on retente notre chance avec Kinshasa. Thierry Kambundi, est-ce que vous nous entendez?
Très bien, Nicolas, je suis en ligne.
Ah, merci beaucoup. Alors, Thierry Camouni, je le disais, hein, notamment au niveau de Kinshasa, comment vous voyez les choses entre ces bisbilles pour la future attribution de la Coupe du Monde 2026?
Nicolas, mes prédécesseurs ont tout dit. Hein. D'ailleurs, je reviens à ce qui a toujours été mon point de vue. Le Maroc, malgré tout ce qui va se faire, malgré tous les efforts et tout ce que nous pouvons dire ici, j'ai l'impression que les résultats sont connus d'avance, que le Maroc ne va pas réussir à arracher cette organisation. Tout ce que vous venez d'évoquer tout à l'heure, le ratio, la distance entre les stades et les hôpitaux, etc., pourrait d'une manière ou d'une autre également préjudicier cette candidature du Maroc. Mais bon, on y croit, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Les Marocains ont démontré depuis même la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde 2010, qu'ils avaient de quoi tenter et réussir à convaincre les uns et les autres pour l'organisation d'une phase finale de Coupe du Monde. Depuis 2008, où le choix a été porté sur l'Afrique du Sud, beaucoup de choses ont évolué d'ailleurs sur le continent, notamment au Maroc, qui a eu récemment d'ailleurs à le prouver à travers l'organisation du CHAN encore. Bref, je suis convaincu que cette candidature du Maroc est la bonne pour l'Afrique, mais malheureusement, je sais que face à tout ce qui s'est fait, à la candidature commune notamment qu'on a eu à évoquer ici les précédentes semaines, le Maroc a très très peu de chances d'arracher l'organisation de ce mondial 2026.
On va suivre ça, en tout cas cette visite d'inspection qui se poursuit cette semaine au Maroc. Voilà, Coupe du Monde dans 2 mois, évidemment. Allez, on va parler football africain cette semaine. Le tour de cadrage, retour de la Coupe CAF, la Coupe de la Confédération 2018. On avait évidemment suivi les résultats des matchs allés. Et dès ce mardi, Belouizdad d'Algérie qui accueille la SEC Mimosa avec un but de retard. La Mancha du Congo face aux voisins de Kinshasa. L'AS Vita Club qui a un but d'avance suite au match allé. Le Plateau United du Nigeria qui se déplace sur le terrain de l'USM Alger avec un but d'avance grâce à sa victoire. 2-1 à aller. Et puis en Égypte, Al Masri qui accueille le CF Mounana. Là encore, match nul, un but partout. À l'aller, on va se tourner vers Thierry Kambundi, Top Congo FM. Thierry, l'AS Vita Club, évidemment déçu après l'élimination en Ligue des Champions, qui va devoir conserver ce petit but d'avance hein, chez le voisin de Congo-Brazzaville. Hein.
Tout à fait. Le coach Florent Ibenge l'a dit avant la traversée le week-end qui vient de se terminer de l'ASV Club pour Brazzaville. Nous avons un but d'avance, mais nous allons chercher à marquer là-bas parce que au match aller, rappelez-vous, hein, je l'ai dit également ici dans ce même programme que l'équipe de la Mancha a joué trop replié avec un bloc qui est resté bas jusqu'au coup de sifflet final. Mais là, ils sont obligés chez eux puisqu'il y a un retard d'un but de se faire, de se découvrir, de s'ouvrir également au jeu, et Vecle va en profiter également pour essayer d'imposer sa loi en face au Congo-Brazzaville. Ça sera un match ouvert. Vecle n'a qu'un but d'avance, mais c'est également très très important. Ce but est arrivé dans les ultimes minutes du match après de nombreuses tentatives. Je l'ai dit 6 fois, les Vecleviens ont touché la barre à Kinshasa. Donc Florent Ibenge s'attend à un match ouvert car la formation du Congo-Brazzaville, la formation de la Mancha de Pointe-Noire, va ouvrir son jeu, va essayer de revenir au score et d'avoir le résultat. Et Florent Ibenge et ses poulains aiment bien justement se retrouver dans ce contexte-là pour prouver de quoi ils sont capables. Mais en tout cas, ils se sont bien préparés ici. Ils sont allés gagner à Goma en championnat 4-0 comme pourraient faire leur note. Et une fois de retour à Kinshasa samedi, ils se sont entraînés 2 fois avant de traverser pour Brazzaville.
Rapidement, Thierry, vous confirmez que rien n'est toujours signé pour Florent Ibenge concernant la sélection, les Léopards?
Rien n'est signé, il est toujours sans contrat. Et voilà, c'est comme ça. Il n'a toujours pas renégocié son deal avec les Léopards de la RDC, même si ça se discute en coulisses. Officiellement, rien n'est signé pour le moment.
Merci beaucoup. Allez, on part du côté de Libreville, retrouver Jules Valentin Gouet pour nous parler du CF Mounana qui va espérer arriver en phase de poule de cette Coupe CAF. Justement, pas facile ce déplacement chez les Égyptiens d'Al Masry. Hein.
Oui, mais il faut dire que déjà, du côté des Gabonais, on se plaint de la durée du voyage. Donc, les Mounanais ont mis une vingtaine d'heures pour arriver en Égypte, un très long voyage avec plusieurs escales.
et on espère qu'ils auront récupéré avant la rencontre. Mais toujours est-il que souvent les Gabonais nous ont habitués à des surprises dans les matchs à l'extérieur et contre les équipes d'Afrique du Nord. Et ma foi, les supporters restent relativement optimistes, même si c'est vraiment relativement qu'ils le sont. Et on attendra le match de mardi pour voir quelle sera l'issue de la rencontre.
Merci beaucoup Jules Valentin-Gouet. Et puis on va revenir avec évidemment Élysée Oumpatin. Les deux clubs ivoiriens, l'ASEC qui se déplace avec une minute d'avance face justement avec un but d'avance, la connexion très difficile avec le Bénin. On va essayer de rejoindre Élysée Oumpatin. Allez, partons au Sénégal, retrouver Amdine Sy et Ahmedine, les générations foot qui après sa victoire 3-1 face à la Renaissance de Berkane espère pouvoir conserver cet avantage et c'est pouvoir se qualifier avant d'arriver au Maroc.
Tout à fait, Nicolas Pinot, Génération Foot a un pied et deux orteils dans les phases finales de cette Coupe de la CAF. Ce sera un exploit pour Génération Foot si jamais il parvient à se qualifier, car depuis 2004, aucun club sénégalais n'a réussi à se qualifier pour les phases de poule, ni en Ligue des Champions, ni en Coupe de la CAF. Mais on espère, puisque aussi aucun club sénégalais n'a été éliminé après avoir gagné par 2 buts d'écart. Donc, Génération Foot sera en quête d'exploit. Mais attention, puisque les choses se passent mal au Maroc. Les joueurs de Génération Foot sont arrivés hier dans la capitale du Maroc, mais ils n'ont pas été bien accueillis. Il faut dire qu'à leur arrivée à l'aéroport de Casablanca, il n'y avait pas les responsables de Berkane pour les accueillir, ni les responsables de la fédération. Et on les a donné un bus qui date des années 50. Il paraît que même la porte de ce bus ne se referme pas. Et le bus est tombé en panne à 7 reprises pour faire 36 km seulement.
Incroyable.
Donc, les autres de Génération Foot ont finalement fait 1h50 et le secours ne connaissait pas l'adresse de l'hôtel de l'équipe de Génération Foot.
Incroyable.
Donc, cela ressemble à une opération de déstabilisation. Attention, donc, on est en Afrique. Il faut bien gérer tout cela pour pouvoir se qualifier, Nicolas Pinot.
Incroyable. Amine Birouk, vous avez des infos sur cette arrivée abracadabrantesque des Sénégalais chez vous au Maroc?
Je rappellerai juste mon ami Amédine que Berkane se trouve à 600 km de Casablanca, qu'une équipe de comme Génération Foot aurait pu prendre une liaison aérienne à partir de Casablanca pour Oujda. Au moins, ça leur aurait épargné de prendre un autocar de ce niveau-là. Un voyage Casablanca-Oujda, c'est une heure de vol. Et puis à Oujda, il y a quand même 50 km jusqu'à Berkane. Donc vous retrouvez dans la région de l'Oriental, pas loin de la frontière algérienne. Pour revenir au match, 3-1, c'est Génération Foot qui est en ballotage favorable. Mais Berkane est une équipe qui est habituée à des retournements de situation. On rappelle qu'elle a éliminé une équipe du niveau du club africain. Elle possède dans ses rangs un duo d'attaque de luxe avec Labako Djo et surtout Ayoub Kabi, meilleur buteur et meilleur joueur du dernier CHAN. On va voir maintenant si l'équipe de Berkane a compris et surtout assimiler les leçons du match aller à Dakar. Sinon, l'équipe de Génération Foot réussira un exploit pour le football sénégalais qui n'a pas été apparaissé depuis longtemps. Et le club du président de la Fédération marocaine de football pourra regretter cette opportunité unique de figurer dans la phase de poule de la Coupe de la CAF.
Merci beaucoup Amine, expert en aviation civile chez les Marocains. On va passer évidemment retrouver notre ami Élysée Oumpatin qui est à Boïcombe-Bénin. Est-ce que la connexion est rétablie, Élysée, vous m'entendez?
Oui, très bien, Nicolas.
Ah, les dieux du téléphone sont avec nous ce soir. On va parler évidemment de la SEC, Mimosa qui se déplace sur la pelouse du Belouizdad. C'est en Algérie avec un but d'avance et également le WAG de Williamsville qui l'avait emporté 2-0 au match aller face à Deportivo Niéfang. On espère, ce serait vraiment une contre-performance pour le football ivoirien d'avoir au moins un représentant ivoirien dans la phase de poule.
Oui, forcément, surtout que la grande déception est du côté de la tête d'Abidjan qui aurait pu se qualifier pour la phase de finale de la Ligue des Champions éliminée par les Zambiens de Zanaco. On se rappelle maintenant avec ce coup succès réalisé à domicile, eh bien, ça se pose beaucoup de problèmes encore que les Mimos dominent sans partage le championnat ivoirien avec la première place très loin devant. Le ciel Ben Wizard qui est au milieu de tableau du championnat algérien dominé par le MC Alger. Donc c'est dit que c'est un match ouvert, c'est vrai. Les Ivoiriens ont cette expérience là d'aller bien négocier le match à l'aller. On se rappelle face au Bénin des buts de Bangou 1-1 ici à Cotonou et également face à Zanaco, ils sont allés battre les Amiens 0 là-bas. Donc on peut s'appuyer sur ça pour dire que les Ivoiriens partent favoris. Maintenant, côté William Zil, il faut dire que c'est un tout nouveau club, hein, un tout nouveau centre de formation qui a seulement 2 ans d'expérience en première division en Côte d'Ivoire. Eh bien, face à Deportivo Mouton qui a écarté un grand du football africain, le dernier club Motoba Pembe, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Mais le succès 2-0 à l'aller peut permettre aux Ivoiriens de jouer avec beaucoup de sérénité du côté de Malabo. Mais attention à cette sélection équato-guinéenne qui a créé la sensation d'éliminer, je l'ai dit tantôt, le BNP.
Merci beaucoup Élisée Oumpatine. On va évidemment suivre ces matchs. Ce sera mardi et mercredi. On vous donnera les résultats sur VOA Afrique. On va marquer une nouvelle pause sur VOA Afrique. Un mot pour vous dire évidemment qu'en Europe, plusieurs clubs ont été sacrés ce week-end, notamment le Paris Saint-Germain, 7e titre de l'histoire pour les Parisiens. Un carton 7-1 au Parc des Princes face à Monaco. Le Paris Saint-Germain qui n'a pas terminé sa saison puisqu'il pourrait réaliser le triplé en remportant la Coupe de France. En Allemagne, le Bayern, lui, avait déjà gagné. Eh bien, le Bayern qui est concentré également en Coupe d'Allemagne pour pouvoir sans doute réussir encore une fois un nouveau triplé historique. Et puis on parle bien évidemment de Manchester City. Là encore, les Citizens de Pep Guardiola qui sont sortis évidemment en Ligue des Champions, on s'en souvient. Eh bien, les Citizens qui sont champions grâce à la défaite de Manchester United à domicile à Old Trafford face à West Bromwich Albion. Amine Birouk avec vous pour revenir évidemment sur Mohamed Salah, le 40e but de la saison, le 30e en Première Ligue, inarrêtable. On espère vraiment que l'Égyptien aura des partenaires, des pharaons à la hauteur pour cette Coupe du Monde.
Tout à fait. Bien évidemment, on rappelle qu'il est en train de battre son record de buts, que jamais un joueur africain n'a signé autant de buts en Champions League. Déjà, il s'était illustré en milieu de semaine lors du match face à Manchester City. Et puis, il continue la moisson. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça va augmenter sa valeur marchande. Je ne sais pas si les Reds de Liverpool pourront le garder à l'intersaison. Il ne manquera pas de courtisans. Et puis, bien évidemment, il faut s'attendre à voir une équipe d'Égypte percutante avec Mohamed Salah. Le problème, c'est qu'il risque d'être cramé parce qu'en Angleterre, on discute de 3 compétitions différentes. Première Ligue, FA Cup, Carling Cup, sans oublier la Champions League où Liverpool a atteint le dernier carré de la compétition. Ça fera un nombre incalculable de kilomètres, un nombre important de rencontres. Espérons qu'il y aura une petite coupure, que ça lui permettra de se régénérer. Parce que l'équipe d'Égypte, qui se trouve dans un groupe a priori à sa portée avec la Russie, l'Uruguay
et l'Arabie Saoudite,
un joli coup à jouer et pourquoi pas passer au second tour. Mais il faudrait un Salah à 100% de ses moyens.
Oui, on espère qu'il va pouvoir se reposer, évidemment, le grand pharaon de Liverpool. Mo Salah, on va vous donner rapidement résultat du marathon de Boston pour vous dire que c'est une première depuis 1985. Une américaine, DJ Linden, a remporté la course. Le temps, 2h39 minutes et 54 secondes. Chez les hommes, c'est un japonais, Yuki Kawashi, qui a remporté la course en 2h15 minutes. Allez, ainsi va s'achever ce Sporama. Merci à tous de nous avoir suivis. On va remercier notre ami Thierry Kambundi via Skype depuis Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir, merci Nicolas et à lundi prochain.
On remercie également Amdine Sy qui était avec nous depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nicolas Pinot et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. Jules Valentin Ngo était avec nous depuis Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, et à très bientôt.
Amdine Sy était avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Et puis enfin, on va remercier Élisée Oumpatine qui était avec nous depuis Boïcon, c'est au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
Georges Léonard Sagnot était à la mise en onde, Nicolas Pinault à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.